Bonsoir à tous. Merci d'être venu pour cette rencontre qui nous tenait très à cœur avec, pour la troisième fois, et j'espère pas la dernière, Vincent Villeminot, qui revient nous voir. Alors, il vient d'un petit village, enfin d'une petite ville peut-être, ouais, plus qu'un village quand même, à côté d'Évian, donc c'est vous dire, c'est vous dire s'il tenait à être là. Donc, merci beaucoup, Vincent. Bonsoir.
Merci à toi.
Et c'est un livre qui nous tenait très à cœur parce que c'est un livre puissant, un livre qui, je dois le dire, me faisait presque peur parce que je savais que Vincent allait y mettre beaucoup de force, peut-être de colère, ça s'est confirmé un peu, et qu'il allait faire de ce que nous avons tous en tête quelque chose qui allait nous amener à réfléchir et non pas à simplement être dans la réaction et le simple sentiment d'horreur, de stupéfaction. Donc vous savez que ce livre parle des attentats, mais surtout parce qu'il s'appelle « Samedi 14 novembre et pas vendredi 13 novembre » de ce qu'on va vivre après. Donc c'est un livre qui parle de ce qui s'est passé, mais qui parle surtout du futur et qui parle d'aujourd'hui aussi et de la société dans laquelle on vit et dans laquelle on a bien besoin de réponses à nos questions et de réfléchir à ce qu'on fait ensemble. Et donc, Vincent, comment est-ce que c'est un sujet qu'on choisit? Est-ce que c'est un sujet qui s'impose? Est-ce que c'est une réaction de colère? Est-ce que ça vient comment? Un livre pareil.
On choisit toujours de faire un livre, mais en l'occurrence, celui-là, ça fait 6-7 ans que j'écris pour la jeunesse des romans. Pas dans les heures qui ont suivi les attentats, mais dans les heures qui ont suivi les attentats, j'ai été saisi de colère un peu par tout le discours qui était produit immédiatement, qui me paraissait un discours, on va dire gentiment imbécile, autour de ces attentats, qui les décrivait d'emblée comme une guerre dans laquelle nous serions tous engagés contre d'autres. Et ce discours-là m'a rempli de colère et j'ai pensé que peut-être il y avait matière à dire des choses, sauf que je ne savais pas quoi et que je n'imaginais pas d'écrire un roman. Il se trouve que quelques jours après, je suis allé voir une pièce de théâtre qui était essentiellement dansée, qui était une pièce en 5 actes, dont 4 était totalement muet, sinon une bande-son. Et il se trouve que dans les premières minutes de cette bande-son, il y avait des rafales de Kalachnikov. Donc le metteur en scène qui était dans la salle ce soir-là nous a prévenus pour nous dire « Ne quittez pas la salle, ça fait partie du spectacle. » Un peu saisi quand même, je me dis « Ben voilà, on en est là, maintenant il faut nous prévenir. » Et puis je rentre dans le spectacle, et c'est un spectacle qui parle de ce qu'est l'humanité, et essentiellement à travers le langage du corps, donc puisque c'est essentiellement dansé. Et là, quelque chose m'a saisi, je me suis dit, oui, c'est vraiment, si on parle de ces attentats, c'est d'abord, il ne faut pas produire d'abord du discours, mais il faut regarder les corps après. Les corps éventuellement blessés, meurtris, les corps qui se relèvent, etc. Et voir ce qui se passe. Et là, l'idée d'un roman a commencé à naître. L'idée d'un roman a commencé à naître, et je dirais pas que le livre s'est imposé, mais que j'ai des copains qui n'ont pas écrit une ligne depuis les attentats. Je comprends parfaitement cette réaction. Il me semble à un moment que si... moi qui essaye de parler du monde dans mes bouquins, si je n'avais pas abordé ce sujet-là, j'aurais eu l'impression de proposer du divertissement à mes jeunes lecteurs qui avaient à vivre ça. Donc effectivement, j'ai arrêté le roman en cours et effectivement, j'ai commencé à écrire. Ça ne s'est pas imposé, mais ça a été un choix un peu... un peu impératif de là, c'est là-bas que tu dois être et pas ailleurs. Voilà.
Oui, il y a eu une espèce d'urgence quand même à se manifester et pour un public bien choisi.
Oui, ben moi j'écris, je dis toujours, j'écris pas en jeunesse, mais pour la jeunesse. Je m'adresse à des jeunes gens qui sont des lecteurs que je trouve merveilleux parce que super exigeants, super pointilleux par moments, et en même temps qui me font sortir de moi-même. Je ne peux pas leur raconter les histoires de ma vie à moi, de type de 44 ans, parce que ça ne les intéresse pas, ils ont bien raison. Donc ça m'oblige à écrire sur autre chose que mon nombril. Moi là, j'écris toujours en pensant à mes gamins. Il se trouve que j'avais mon fils à Paris à ce moment-là, qui m'a envoyé via Facebook la petite notule bien sentie qu'il était, il était en sécurité. Et c'est certain que je me suis dit, il y a des choses à dire là-dessus, d'autant plus que... Alors là, j'avais un sentiment plus de perspective, mais que on est toujours dans une histoire qui a commencé pour le moins en 91, au moment de la première guerre du Golfe, et qu'à ce moment-là, il se trouve, c'est moi qui avais 19 ans. Et l'histoire continue. Et donc, ce continuum-là, je voulais aussi en dire un petit peu quelque chose, quoi. Voilà. Et puis après, effectivement, il y a une urgence. Effectivement, j'ai contacté très vite Thibaut Bérard, qui est éditeur à Sarbacane, parce que ça me paraissait une bonne maison pour écrire un livre comme ça. Et que j'avais besoin de savoir que j'aurais un éditeur qui me suivrait... dans l'idée d'écrire un livre sur ce sujet-là sans savoir ce que serait le livre au final. Donc Thibaut m'a confirmé très vite qu'il me lirait tout du long, qu'il ne pouvait pas me dire d'emblée je publie, mais qu'il me lirait tout du long. Voilà. Et puis j'ai commencé à écrire très vite avec cette idée un peu folle au départ qu'il fallait que le livre soit livré dans 3 mois. Moi, je me disais, ben voilà, on fait une sortie en février ou en mars. Pour parler du lendemain, il faut en parler vite. Thibaut m'a évidemment dit dans tes rêves. Et il a eu raison parce qu'en fait, le livre, une première version du livre s'est écrite très vite, en 3 semaines, 1 mois. Mais ensuite, on l'a laissé reposer. On l'a déployé, le livre, puisqu'il est construit en actes et en entr'actes. Et on a inventé les entr'actes dans la discussion avec Thibaut dans un deuxième temps, et puis ensuite j'ai largement repris cette version là quand les choses se sont posées. Donc c'est un livre qui s'est en réalité écrit par séquences très urgentes. Thibaut pourrait témoigner que quand j'avais une question, s'il ne me répondait pas dans les 2 heures, je le harcelais, mais par séquences très urgentes, en définitive assez étalées dans le temps sur 6 mois, ce qui était nécessaire, je crois, au livre.
Ce qui est formidable avec Vincent, c'est qu'il fait vraiment tout le travail. Donc, il anticipe sur les questions que j'ai posées. Ça s'articule bien. Est-ce que tu serais d'accord pour lire un petit peu le tout début, pour donner, ou pas, ou si tu veux que je le lise, ou juste le tout début pour vous montrer combien, dès la première page, on est, alors là, au moment même de l'attentat, très brièvement, mais dans un style qui est tout en apnée, donc on ne respire plus, on ne peut pas respirer, on est vraiment dans la sidération, dans le moment, dans le présent.
Et puis ensuite, il y eut une brève pause de silence. B s'en souviendrait. Quelques secondes, 2 ou 3, c'est très court, comme s'il fallait que chacun se remette de sa stupeur. Ou peut-être est-ce attendre, reprendre son souffle, comprendre qu'on est vivant, s'assurer qu'ils sont vraiment partis, les tueurs. Ou bien est-ce tout le bruit, le vacarme du monde qui se sont retirés? Il paraît que lorsqu'une munition d'artillerie explose, l'effet de souffle te donne ce sentiment. Tout l'air s'en va, en une seconde, juste avant que les shrapnels te déchirent. Que la peau cesse d'être une peau, un bouclier, une frontière entre le monde et toi. Mais là, ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu de shrapnel. Il y a eu la voiture qui freine, les portières qui s'ouvrent, claquent, et sans une semonce, les rafales. 2 armes. des fusils d'assaut marque Kalachnikov, modèle AKM ou peut-être AKMS en tôle emboutie dont on vide les chargeurs. Il y a eu autour de B les chaises qui se renversent, les tables, les corps qui tombent, les verres qui explosent en esquilles, en milliers de débris, l'impact sec sur les vitrines, les cris de surprise, d'effroi. Et puis ensuite les portières, le moteur qui s'emballe, puis ce silence, ce sursis. B relève les yeux à quatre pattes sur le trottoir, dans les chaises emmêlées, les tables, dans le givre du verre. La voiture est partie. Il a le temps de penser « je ne suis pas mort » avant la fin du monde. Un gémissement. Il a le temps de se demander « Pierre, où est Pierre ?» Et puis une femme se met à pleurer doucement. Et toutes ces voix, d'un coup, tous ces cris, de peur, de douleur, des appels, des suppliques, des soupirs.
C'est un prologue qui vous file des frissons parce qu'on est vraiment, au cœur, là, à côté de ce personnage... Ce personnage qui est épouvanté et en même temps, il y a des mots qui reviennent, moi qui m'ont frappé, c'est après et puis, comme si ce moment-là, finalement, on pouvait peu le dire.
Ben, en fait, l'idée du livre, c'est vraiment de parler de l'après. Mmh. Et en commençant par ce et puis après qui commence le livre, je pars quand même d'une idée. On sait tous ce qui s'est produit ce vendredi-là. Donc,
on n'a pas besoin de...
En parler, ça fait partie des rares événements d'une vie qui rentrent dans une mémoire collective instantanément. Mmh. Ce qui convient, c'est de parler d'après. Donc, de commencer par un « et puis ensuite », voilà. On dit d'emblée, c'est pas de ça dont on parle. Mmh. C'est de ce que ça provoque... ou ne provoque pas, de ce que ça empêche, de ce que ça arrête, ou de ce que ça peut déployer éventuellement. Et l'enjeu, ce prologue qui est vraiment un prologue, qui est quelque part en dehors du livre, puisqu'il est avant les actes, c'est vraiment l'idée de faire découvrir... un personnage dans ces événements que nous connaissons tous, mais on est pour l'heure en dehors de la fiction. Et on va avoir au début de l'acte 1, on va avoir un passage au passé, qui est le langage de la narration, qui est, je crois, très visible et très sensible pour le lecteur, pour dire, voilà, je t'ai parlé de quelque chose qui est l'histoire, maintenant, je vais te raconter une histoire. Mmh. Et une histoire... qui est pure fiction, parce que je veux pas qu'il y ait de confusion, quoi. Mmh. Je suis un romancier, je ne parle pas des faits, sinon avec les armes de la fiction.
Et justement, c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est la force de la fiction qui est à l'œuvre et qui va nous proposer une lecture différente de ce qui s'est passé. Alors, on se disait, il faut des mots très précis, très choisis pour parler de ce livre et de ce qu'il raconte, parce que ce sujet-là est particulièrement sensible pour tous et on le vit en librairie, comme toi tu le vis dans les rencontres, je crois. Il y a à la fois les gens qui disent, quand on leur propose le livre, non, surtout pas. Avec ce mouvement de mains comme ça qui s'opposent, de mains tendues pour presque nous repousser dans notre proposition. Et puis il y a ceux qui, certainement comme vous, puisque vous êtes là ce soir, ou ceux qui nous écoutent, sont dans la demande. Donc la fiction, elle permet d'aller jusqu'où ? Elle te donne une liberté totale ou il y a des choses que tu t'interdis ?
La fiction... Là, elle a comme fonction d'éclairer des choses que je ne connais pas encore. Si j'écris sur les attentats et sur ce qui s'est produit, je pense que je dois le faire en journaliste, c'est-à-dire essayer, ou en historien éventuellement, mais longtemps après, c'est-à-dire essayer d'aller au plus près de tout ce qui s'est passé et essayer de voir à la fois chaque détail et puis l'image d'ensemble. La fiction, elle permet de rentrer d'emblée dans l'avenir, alors que l'avenir est encore très flou, que l'avenir est dans le brouillard. Et elle permet par ailleurs d'incarner des choses que je pressens, ou devine, ou redoute, ou crains, ou espère, et de les incarner avec des personnages qui vont prendre à un moment une existence, parce que c'est notre boulot de romancier de faire exister des personnages qui à un moment se mettent à nous échapper un peu. Et quand ces personnages commencent à nous échapper un peu et à avoir une existence, ils me permettent de savoir moi aussi un petit peu mieux ce qui va se passer. Voilà. Je ne savais pas en commençant ce livre où m'emmèneraient mes deux personnages. Je croyais que mes deux personnages, c'était B, qui s'appellera un peu plus tard dans le roman Benjamin, et Leïla, et le tueur, pardon, qui vont se rencontrer dans le métro, que B va suivre le tueur, et ils vont se retrouver dans un huis clos. Sauf que le tueur, il se retrouve chez sa sœur, Leïla. Et je ne savais pas que Leïla serait un personnage important du roman. Et puis, en cours d'écriture, je me suis rendu compte, je laissais des trous systématiquement dans l'écriture chaque fois qu'il y avait un dialogue entre Benjamin et le tueur. Je laissais un trou et je mettais dialogue à écrire, dialogue à écrire, dialogue à écrire. Et à un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'écrire ces dialogues-là et qu'en définitive... ce que le tueur avait à dire m'importait peu. Ce qui est une limite, hein. Peut-être c'est une limite de ce roman, je ne sais pas. Mais qu'en revanche, ce que Benjamin avait à dire à Leïla et ce que Leïla avait à lui dire et à lui répondre m'intéressait de plus en plus. Et Leïla... qui au départ était un élément de décor, quasi un élément de réel, puisque quand j'ai décidé d'écrire, on avait l'histoire de Abdeslam qui s'était réfugié chez sa cousine à Saint-Denis, donc j'avais imaginé ça là plutôt une frangine pour m'éloigner un peu du réel, mais c'était juste un élément de décor. Et de plus en plus, elle est devenue centrale et elle est devenue le cœur du projet. Puisque à un moment, on avait même fait un bandeau qui s'appelait « Et toi, comment tu la regardes ? La sœur de l'ennemi ?» Et que c'est ces deux-là qui sont sur la couverture, c'est mes deux personnages. Et ça, c'est la fiction qui le permet, parce que tu as un moment où tes personnages deviennent suffisamment autonomes dans l'écriture pour t'emmener là où tu n'as pas tout à fait prévu.
Peut-être qu'on va parler un petit peu donc, de ces personnages, donc B qui n'a pas d'identité plus développée que ça au début, donc c'est B comme la lettre avec un point.
Oui.
Pourquoi ce choix de ne pas l'avoir appelé Benjamin dès le début ?
Je ne sais pas, j'ai écrit le prologue comme ça. D'une part parce que quand j'ai commencé dans l'urgence, je ne savais pas quel serait son prénom. Tom Lévesque m'a fait remarquer que c'était B comme Bataclan. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'était totalement inconscient. Ce que je savais, c'est que je voulais que B, quelque part, soit initialement une silhouette extrêmement incarnée. C'est-à-dire un corps, mais rien d'autre. Qu'on ait une description physique assez précise... mais qu'on ne sache pas dans quel état il est et ce qu'il pense. Je pensais initialement que B, Benjamin, devait porter toutes les pensées de chacun d'entre nous. Sauf qu'un personnage qui porte toutes les pensées à la fois, ça n'existe pas. Mmh. Et que donc il m'a fallu faire un tri, décider qui il était... et puis inventer les entr'actes pour donner voix à d'autres voix. Je voulais aussi d'emblée dire que, à ce moment-là, ce personnage-là est d'abord le frère d'un mort. Et c'est ça qui fait son identité, et donc lui n'a plus de prénom alors que son frère en a un d'emblée. Et je crois qu'à certains moments du deuil, on est d'abord relativement à l'autre. Voilà, je suis le frère de mon frère mort. Mmh. Je suis le mari de ma femme morte. Mmh. Voilà. Et donc, quelque part, il avait cette identité-là d'emblée. Et si je lui avais donné un prénom d'emblée, peut-être que ça aurait mis Pierre un peu sous... Ça l'aurait effacé légèrement. Mmh. Voilà. Donc, il fallait d'abord que ce soit Pierre qu'on entende. Et que le nom que le lecteur retienne le premier, c'est celui de Pierre.
Mmh. Oui, c'est ce qui se passe. Et en même temps, on est très intrigué par justement cette lettre, le pourquoi et ce qu'il va devenir. Et on le suit, donc B, il est légèrement blessé au bras par une balle qui effleure son muscle. Il est récupéré par les secours à l'hôpital, sous morphine.
Oui.
Il est pris en charge par une infirmière qu'on va retrouver plus tard dans le roman, dans un des entractes. Et B, il vit la stupeur et un sentiment de déréliction
oui.
qui va faire qu'il ne se voit pas appeler leurs parents, à tous les deux, et qu'il part de l'hôpital au petit matin, premier métro, et il va retrouver... croiser celui qu'il reconnaît qui était à bord de la voiture des tueurs et qui, lui, n'a pas tiré. Donc, à partir de là, c'est c'est pas une course-poursuite, mais c'est une traque. Donc
c'est une filature.
Une filature, voilà, merci. Il se dit, c'est comme dans un film, c'est comme si c'était pas lui quelque part. Enfin, il sait plus trop, il fait ça alors qu'il aurait pu faire tant d'autres choses. Donc là, on rejoint un peu la tragédie. C'est le destin, c'est le hasard, c'est plus le destin hein, qui lui fait choisir une voie plutôt qu'une autre. Il y a des patrouilles partout. Il aurait pu dénoncer cet homme comme l'un des tueurs et déclencher l'enquête qui a manqué par la suite. Et donc, B se retrouve dans le même train que celui qu'il appelle très vite l'arabe, comme dans L'étranger de Camus. C'est son arabe, c'est son assassin. Et il va y avoir une scène centrale qui va devenir un huis clos à trois. Donc là aussi, la forme est très présente, je trouve, dans ce roman. Il y a plein Tu joues beaucoup avec les temps de la narration, donc tantôt présent, passé, puis futur dans la dernière partie.
Ouais.
Donc on sent que la forme soutient complètement le fond. On ne va pas relancer ce vieux débat. On vous le ferait en cours de français si nécessaire. Mais en tout cas, on sent que c'est plus qu'un artifice, c'est aussi pour dire quelque chose de ton récit.
Mais en fait, l'idée de faire des actes et des entr'actes, elle est née d'abord d'une remarque de mon éditeur. J'avais appelé la première version du roman que je lui ai envoyé samedi 14 et dimanche 15. Et il me dit, j'aimerais un titre plus court. J'aimerais juste samedi 14 novembre. Sur le moment, je m'agace, je lui dis. Et je me dis, si j'écris sur le lendemain, je ne vais pas prétendre écrire sur le surlendemain, donc on va se concentrer là-dessus. Et je me dis, on va se concentrer là-dessus, et donc unité de temps, et donc unité de temps, et donc forme théâtrale, tragédie. Et donc tragédie, donc ce que je vais écrire, et ce que j'avais déjà en partie écrit dans le dernier acte, devra être écrit au futur. Et ça part au départ d'une considération de titre, mais ça génère une réécriture d'un certain nombre de choses. Et cette réécriture était nécessaire au roman parce que, effectivement, on parle du lendemain, pas du surlendemain. Effectivement, on parle de l'état dans lequel on est et de ce qu'on peut deviner dans l'état dans lequel on est, de ce que sera le surlendemain. Et donc, effectivement, il y a un moment où le futur doit rentrer en scène. Et voilà, quand on réfléchit sur la forme, on réfléchit sur le fond, pour de vrai, toujours, il me semble. C'est en cela que l'écriture est intéressante. Mais je pense que c'est vrai aussi pour un cinéaste qui... Enfin, Godard et son affaire de morale, etc. Quand on filme quelqu'un en plongée ou en contre-plongée, on ne dit pas la même chose de lui et on ne dit pas la même chose au spectateur sur le regard qu'il a sur lui. Donc, mais de la même façon, selon que j'écris au présent, au passé ou au futur, je ne dis pas la même chose et mon lecteur ne va pas entendre la même chose. Heureusement.
Donc Benjamin, oui, c'est vraiment une mise en scène des personnages comme on le ferait au cinéma par la forme. Benjamin, donc c'est B au départ.
Oui.
Donc c'est un garçon qui agit un peu en dehors de lui-même jusqu'au moment où, alors j'essaie de pas trop spoiler, vous remarquez, jusqu'au moment où il va avoir après une scène, des scènes extrêmement fortes, extrêmement violentes et qui sont nécessaires à l'avancée du roman. On reviendra sur le thème de la violence parce que c'est très présent dans tes précédents romans aussi. On a un personnage qui est vraiment à la croisée des chemins. Donc je disais tout à l'heure, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Donc toi, tu es celui qui le mène sur un chemin particulier dont il va sortir et qui va l'éclairer autrement alors même qu'il est abîmé par la violence qu'il a rencontrée. Donc c'est plus le même après. Comment tu lui as fait vivre ça?
Je ne sais pas si B, il est hors de lui-même quand il se venge ou quand il commence à se venger. Je ne pense pas que l'idée de vengeance soit en dehors de nous. Je pense qu'elle nous défigure éventuellement, qu'elle n'est pas la part qu'on voudrait connaître de nous-mêmes et que si... la société, le monde qui nous entoure est bien faite. Elle nous permet d'échapper à cette idée de vengeance le plus souvent, mais je pense que ça fait partie de nous aussi. Je pense que... moi, je me souviens l'année où j'ai été le plus raciste, c'est l'année de mes 10 ans. Il y a eu une Coupe du Monde de football... Et la France avait perdu en demi-finale contre les Allemands. Et je me souviens de l'été suivant, chaque fois qu'on croisait une bagnole allemande immatriculée en Allemagne sur l'autoroute, on lui faisait des bras d'honneur. Et on avait la bénédiction de mon père cet été-là pour faire des bras d'honneur. C'est un réflexe anodin, mais on rejouait la guerre 39-45 pour une connerie, pour du football. Et très sincèrement... On aurait eu 5 ans de plus, on aurait bu un coup de trop et on aurait eu un Allemand sous la main dans un bar. Je ne sais pas s'il aurait rigolé. Je pense qu'il y a ce type... On a vu après les attentats de Nice, dans les jours qu'on suivit, au moment des hommages sur place pour les victimes, des gens qui ont été éjectés des hommages. Ils en ont été éjectés parce qu'ils étaient maghrébins, parce que les femmes étaient voilées, etc. Une partie des gens qui ont été éjectés avaient perdu des proches aussi. Ces réflexes à la fois individuels et collectifs de vengeance font partie de nous aussi. Simplement, ils nous abîment, ils nous défigurent. Et il y a un moment où... B redevient Benjamin parce qu'il comprend cette défiguration qui est en train de lui arriver. Il le comprend progressivement. Il le comprend d'abord par un choc physique. Il donne un coup de poing dans le mur pour ne pas donner un coup de poing dans la tête du type. Et puis, il se rend compte qu'il n'a pas mal et que ce n'est pas normal d'être écorché sans avoir mal. Et donc, il y a quelque chose de sa douleur qui est anesthésié par sa violence. Et puis après, il va le comprendre progressivement en regardant Leïla et en entendant ce que Leïla a à lui dire. Prise de conscience progressive-là me paraissait d'autant plus importante. Pour moi, c'est le cœur du bouquin. C'est comprendre ce que la violence nous fait et ce dont elle nous rend capable et ce qu'elle peut nous amener à faire en retour, dans toujours cette logique de la phrase « nous sommes en guerre », si nous sommes en guerre, il est légitime qu'on frappe en retour ceux qui nous ont frappés, et comme on les aura frappés, il sera légitime qu'ils nous refrappent, et on peut continuer les choses un petit moment. Voilà.
Quand Benjamin attend à la terrasse du café, tu dis, il attendait, donc avant de traquer dans l'appartement, ouais. D'arriver à cette scène de huis clos, il attendait sans savoir quoi exactement, ou prétendant encore ne pas savoir. Donc ouais. Ça illustre en fait ce que tu viens de dire, ce prétendant ne pas savoir, c'est finalement, il pourrait en être conscient.
Mais... Il a tout mis en œuvre pour que la vengeance s'exerce, mais il le nie. Voilà. Je pense que parfois dans nos vies individuelles et dans nos sociétés, on se prépare pour le pire. Et quand le pire survient, on dit « Oh, bah, c'est pas de chance ». Mais il y a des conditions objectives. Il y a des conditions objectives où va s'exercer la violence. Il y a des conditions où quand on s'installe à 5 contre 1 à un endroit... qu'on va consommer éventuellement des produits, etc., il y a une chance que la violence survienne. Le problème n'est pas qu'elle survienne, le problème est qu'on a installé ces conditions-là. Quand on explique à quelqu'un qu'il est chez lui, dans un pays, s'il mange ce qu'on lui interdit normalement dans sa religion, s'il veut bien se dévêtir alors qu'il se couvre, etc., il y a un moment où on crée les conditions pour ce qui s'est passé cet été sur certaines plages en Corse, où des gens ont dévoilé des femmes de force. Que ces gens aient fait ça, je pense qu'ils en portent une responsabilité, qu'on ait créé les conditions pour que les incidents surviennent, je pense aussi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de tenir un discours sur la façon dont on s'installe dans une voie sans issue. Ouais, dès lors qu'il rentre dans cet appartement, il s'installe dans une perspective de violence. Il prétend ne pas savoir encore qu'il veut se venger, mais bien sûr que si. Bien sûr que si.
Et après, il a du mal à en sortir, puisqu'il dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais de toi maintenant que tu es là, donc ligoté au radiateur, il est devenu le bourreau de son assassin et de sa sœur. Situation très inconfortable pour le lecteur, parce qu'on se pose des questions aussi sur cette violence qui nous est donnée à lire.
C'est une situation inconfortable parce qu'on aimerait bien être en empathie avec Benjamin. C'est une victime. Et que ça devient difficile d'être en empathie avec lui. Ça devient impossible de justifier les gestes qu'il a eus. Et c'est ce malaise-là qui m'intéresse. À quel moment on se dit « il va trop loin ». À quel moment on se dit il exagère ? À quel moment on se dit ça dépasse les bornes ? À quel moment on ne tolère plus ? Parce que là, ça devient intolérable. Ça va dépendre des lecteurs. Et ça, moi, c'est les premiers retours qui m'intéressent. C'est que certains vont s'arrêter sur un premier détail, d'autres sur un autre, puis après sur des choses qui sont beaucoup moins des détails. Et que je crois qu'on a systématiquement tous à se poser la question sur chacun de nos gestes, à quel moment ils deviennent quelque chose de... Mais non seulement sur nos gestes, mais sur ceux de nos voisins, de nos amis, de nos proches. Voilà, quelle parole est intolérable, quels mots ne doivent non pas être prononcés, mais ne doivent pas être, ne doivent être discutés combattu, etc. C'est une des questions que pose le bouquin. Et puis, le « qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Moi, c'est quelque chose que... qui m'importe aussi. Il y a, dans notre société, un certain nombre de jeunes gens, plus ou moins jeunes, d'ailleurs, qui ont pris... qui ont fait le choix de prendre les armes pour aller tirer sur d'autres un soir à Paris. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut l'expliquer sans l'excuser ? Est-ce que ça sert à quelque chose de l'expliquer ? On peut le regarder et ne pas détourner les yeux. À quoi ça sert de le regarder sans détourner les yeux ? On peut essayer de simplement de contrôler ces personnes-là. On n'y arrive pas complètement, mais on limite la casse. En tout cas, on peut difficilement faire comme s'il n'existait pas. Voilà. Là encore, dire nous sommes en guerre, c'est employer un langage qui est impropre, parce qu'une guerre, c'est contre, en termes juridiques, hein, tout bêtement, c'est contre un ennemi qui est défini et qui est extérieur. Or là, l'ennemi, si ennemi il y a, il n'est pas défini et il n'est pas extérieur. Donc là aussi, c'est raconter une histoire que dire nous sommes en guerre et on va aller bombarder ailleurs, comme si ces gens venaient de Syrie. Ils ne viennent pas de Syrie. Ils vivaient chez nous, sont allés en Syrie et revenus. Ce n'est pas la même chose.
Donc, on a un premier acte. Donc, B suit son assassin. Après ces scènes donc, qui mettent très mal à l'aise de torture, d'humiliation, de face à face, très, très tendu, très grave, très violent. Ensuite, Benjamin, donc B devient Benjamin dans son rapport avec Leïla. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se construit. Et puis l'acte 4, est-ce que c'est l'acte du début du pardon ou est-ce que c'est autre chose ?
Je ne sais pas si Leïla lui pardonne déjà. Elle essaye, elle dit qu'elle n'aura pas le choix et qu'il faudra bien qu'elle y arrive. En tout cas, c'est l'acte où ils prennent langue. C'est l'acte où Benjamin s'adresse au tueur, mais au tueur bâillonné, donc le tueur ne peut pas lui répondre. Et Benjamin s'adresse à Leïla, mais Leïla n'est pas bâillonnée et peut donc lui répondre, et lui répond assez franchement. Et c'est le moment où il commence à parler. Et c'est de ce dialogue-là, d'une part, on va identifier les choses qui sont difficilement compatibles, mais on en parle. Et puis, on va identifier aussi... ce qui est de l'ordre du désir commun, c'est comment on fait pour continuer ensemble. Alors que parfois on ne se comprend pas, et alors que parfois on ne se comprendra pas. Je pense qu'on vit dans une société où on est convaincu que si on se parle, on va finir par se comprendre. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que parfois, sur certaines choses, on peut se parler pendant des années, on ne se comprendra pas. Fondamentalement, sur la question religieuse qui est un peu parfois questionnée là, entre quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu et quelqu'un qui croit qu'il n'y en a pas, on peut en discuter pendant des heures. On peut discuter de ce que ça change dans la vie de quelqu'un d'avoir un Dieu ou de ne pas en avoir. On peut discuter de la façon dont il vit sa religion, dont il essaye de la vivre avec la tolérance, ou dont il vit son athéisme et dont il essaye de le vivre avec tolérance. Mais n'empêche qu'il y a un fossé peut-être, en tout cas quelque chose d'infranchissable, une expérience impartageable qui est la foi religieuse. Donc on pourra en discuter, mais on ne partagera pas pour autant totalement la chose. Et je voulais des dialogues qui soient des dialogues sans cesse heurtés, des échecs de dialogue. On les voit parler dans la cuisine, et sans arrêt, il y en a un qui s'arrête, et il y en a un qui dit « Ok, okay, t'as raison, reprenons-nous », parce qu'il y en a un qui s'irrite, il y en a un qui laisse tomber, qui a envie de dire « Bon, ça sert à rien. » Mais ça sert à rien, mais continuons. Voilà, ça c'est une conviction. Parfois, ça sert à rien de parler, mais il faut continuer de le faire. Et on arrive sur l'acte 5, qui est autre chose. Voilà. mais qui est plus dans samedi 14, qui est du dimanche 15. 15. Ouais.
Donc on y reviendra sur cette fin, mais évidemment on ne va pas vous raconter la fin non, quand même. Mais si j'aimerais qu'on parle des entr'actes aussi, ouais. Parce qu'il s'est dit, alors déjà on y respire un peu parce qu'on perd...
On n'est plus dans le huis clos.
Voilà, on n'est plus dans le huis clos, on n'est plus tout à fait dans le même rythme, dans l'écriture, dans les phrases non plus. Et donc là, on prend le temps d'avoir des personnages que l'on décrit dans leur circonvolution de pensée,
ouais.
dans leur questionnement, dans leur fragilité, dans leur histoire aussi, dans leurs histoires. Donc il y a plein de personnages en fait dans ce livre. Il y a les trois là dont on a parlé pas mal. Et puis il y a Pierre, bien sûr, ouais. Sur lequel on va revenir, qui va même prendre la parole, oui. à un moment donné. Là, on change, ton style, il change complètement. Enfin, oui. Peut-être qu'on lira un passage de ces moments-là aussi à la fin, parce que ça donne vraiment une autre idée de ce que tu peux proposer. Il y a cette jeune danseuse donc, oui. Qui t'a été inspirée, donc on le comprend maintenant par ce spectacle vu juste après. Il y a un type sur le quai de la gare qui va donner des cigarettes à Benjamin et qui ne va pas comprendre qu'il y a une victime là, des attentats qu'il a laissé abandonner à lui-même. Donc il y a Ninon, la fille à l'écharpe rouge, qui se pose plein de questions. Il y a Marion, l'infirmière qui a soigné Benjamin. Et puis il y a ces gens qu'on croise tous les jours. Il y a les deux petits vieux là, rue Dunkerque, à la caissière. Et ces gens qui discutent et puis qui, aux prochaines législatives qui approchent, vont voter facho. En se sentant tout à fait légitime de le faire et avec des bonnes raisons de le faire sans doute aussi. Donc il y a tout un panel de personnages qui représentent plein de visions de notre société là de maintenant, d'il y a un an, mais qui est toujours là, la même. Comment tu les as choisis? C'était pour représenter donc ce que tu disais tout à l'heure, ces différentes voix qu'aurait pu porter Benjamin, mais qui ne pouvait pas toutes les prendre à sa charge.
Oui, peut-être. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de l'idée qui est là un peu depuis que j'ai écrit U4, que chaque personnage secondaire mériterait un roman. Que j'aurais pu écrire un samedi 14, qui était celui de Ninon, qui était celui du père de Pierre, qui était celui de Pierre avec cette voix d'outre-tombe, qui était celui de n'importe lequel de ces personnages-là, et qui aurait été un samedi 14 radicalement différent. Il y a aussi la volonté d'essayer d'aller toucher le lecteur là où il est. Voilà. J'ai essayé par ces quelques personnages-là de rappeler au lecteur, parce que moi, c'est peut-être un panel d'émotions soit qui m'a traversé, soit que j'ai rencontré dans les discussions, dans les jours qui ont suivi. Ninon, c'est deux ou trois personnes précises. Laurent, le père de Pierre, c'est deux ou trois personnes précises, etc., etc. De rendre compte de ce qu'on a pu penser et comme ça de nous relier au roman. Voilà, parce que à la fois ce qui, là encore, parce que c'est de l'histoire collective, ce sont des événements qui nous relient. Paradoxalement. C'est les tragédies qui nous relient. Voilà. On peut tous se souvenir de comment on l'a appris, de comment on l'a... Je suis très frappé de voir comment les gens me racontent comment ils l'ont appris. Depuis que le roman est sorti, les gens me racontent comment eux ont vécu cet événement-là. Et ça fait partie du bouquin, parce que je voulais que le bouquin pose des questions et permette aux gens de parler, qu'ils puissent se dire, ben là, tiens, oui, là, il y a eu un peu de moi à tel endroit. Donc, il fallait que les entr'actes permettent ça, Et j'avais construit au départ des entr'actes avec des personnages qui étaient des archétypes. C'était quasi à chaque fois un discours, un discours très politique. Mmh. Et au fur et à mesure, avec l'aide de mes éditeurs, j'ai viré du discours et je les ai regardés et je les ai incarnés. Et il me semble qu'ils ont chacun un bout d'humanité quand même. Et que c'est toutes ces humanités-là qui composent aussi le samedi et qui va faire que le dimanche, quand Benjamin et Leïla ressortent du huis clos, ils vont se dire la vie a continué. Pendant qu'on était dans ce truc-là, la vie dehors a continué. Elle a continué dans le chagrin, dans la stupeur, dans les changements radicaux de pensée, dans l'habitude du pire, dans etc. Mais elle a continué. Tout le monde ne s'est pas arrêté ce soir-là. Et on a, au contraire, produit de la pensée, du discours, de la peur, dès les minutes suivantes. Et avec aussi ce truc très particulier de ces événements-là, que moi j'ai remarqué, on a besoin d'en parler. Moi j'ai eu le lendemain des attentats un certain nombre de personnes qui me sont chères, mes frangines, etc., qui ont appelé à la maison. Je vis en Haute-Savoie, je n'avais aucune chance que je fasse partie des victimes. On n'avait rien à se dire, mais il fallait qu'on parle. Et cette volonté, quelque part, qui me paraît une volonté d'être ensemble, mais qui me paraît aussi une volonté de débriefer ensemble, je voulais qu'il y ait des voix qui débriefent chacune, pour elle-même ou avec d'autres, pour se dire, voilà où j'en suis, moi. Je ne sais pas si je suis clair, là.
Très.
Si, ça va ?
À mon sens, très clair. Il y a un thème qui me semble, dis-moi si je me trompe, dans tes derniers romans, dans Les pluies, dans Le copain de la fille du tueur, ouais, notamment, et dans celui-là,
ouais,
il est beaucoup, de plus en plus, à mon sens, question d'amour.
Ouais.
Et c'est bien. On disait tout à l'heure, il y a deux choses qui peuvent nous sauver, je veux dire, l'alcool, la drogue et l'amour. Donc, plutôt l'amour, on va dire. Là, ouais, c'est carrément autorisé. Les autres, c'était vraiment pour rire, hein, vraiment, vraiment. Et là, il y a des très beaux moments, il y a des très belles scènes d'amour. Alors, amour entre frères, amour père-fils, donc entre le père de Pierre et de Benjamin et son fils à la morgue, c'est une scène d'une force incroyable. Il y a la scène finale, les dernières pages, que j'ai adorées. Donc c'est pour vous dire que c'est pas un roman que de noirceur, au contraire. Alors non seulement il y a ce cinquième acte qui est porteur de lumière, même si on en a discuté entre collègues, lecteurs, etc., même si chez certains, c'est trop improbable. Cette fin. Et j'imagine que tu t'es posé la question aussi et que voilà, tu l'as voulu comme ça. À la fin, il s'est passé 2 jours depuis les attentats. Benjamin et Leïla, ils sont sur la plage. Ces deux jeunes adultes qui rient, qui sont au soleil, Benjamin qui...
Soleil du Nord quand même, oui. Soleil relatif.
Oui, c'est pas la Méditerranée. Mais c'est le Pas-de-Calais, c'est autre chose, il est froid. Et Benjamin est fasciné par les seins de Leïla, ouais, et qui sont là, enfin ils sont là, donc il faut les regarder, enfin il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc c'est très sensuel, ils sont vers la vie, donc il y a une pulsion de vie naturelle aussi et évidente. Et moi, franchement, à ma première lecture, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis, très vite, je me suis dit, c'est possible puisqu'on est dans la fiction. Et que la fiction, elle permet tout. Il y a un éventail de possibles absolument infini. Et c'est à chacun de le prendre, de le tricoter avec ce qu'il est, avec ce en quoi il croit ou pas. Et ton roman, il finit comme ça, c'est la dernière phrase. Ouais. Tu dois l'avoir en tête mieux que moi. C'est les 3 dernières phrases. Ce ne sont pas ces souvenirs tremblants qui comptent, sauf pour les morts. Ce qui compte pour les vivants, c'est ce qu'essaient de faire Benjamin et Leïla, je crois, et Marie, Marie, c'est la danseuse. La danseuse qui se pose des questions, on n'en a pas parlé. C'est un très beau personnage. Elle se demande s'il faut continuer.
Ouais.
S'il faut continuer à donner de la beauté, finalement.
Si ça a du sens de continuer. Et là, moi, ça rejoignait vraiment ma question. Est-ce qu'on continue à écrire, quoi? Est-ce qu'on continue à écrire et quel sens ça a? Voilà. Donc, Marie, je l'ai un peu préempté. Il y a deux fins dans ce roman. Il y a une fin avant les remerciements et une fin après les séquences de post-générique. Et les deux fois, je dis « je crois » dans ma dernière phrase. Voilà, « je crois ». Je crois parce que je ne suis pas sûr et je crois parce qu'il faut qu'on y croit. C'est les seuls moments dans le roman où j'interviens. C'est un jeu qui est un jeu d'auteur, là. C'est la première fois que j'en mets un dans un roman. C'est une prise de position. Je crois qu'il faut qu'on s'aime, mais qu'on s'aime vraiment. Je crois qu'il faut qu'on s'aime en se regardant avec toutes les blessures qu'on a, avec toutes les blessures qu'on porte et avec toutes les blessures qu'on s'est faites l'un à l'autre, je crois. Je crois que c'est une nécessité pour que quelque chose de neuf survienne. Je ne sais pas s'il est possible de s'aimer comme ça, mais je crois qu'on en a besoin. C'est pour ça que je l'écris au futur. Et j'en parlais avec ma femme qui m'a accompagné tout le long de l'écriture et qui est la personne que j'aime le plus, donc à qui je fais une relative confiance quand j'essaye de parler d'amour, et qui me disait... Quelque part, c'est à la fois la fin la plus espérante, mais aussi la plus désespérée. Parce que imaginer qu'on a besoin de ça pour s'en sortir et pouvoir continuer ensemble, c'est presque dire il est impossible de réussir à continuer ensemble. S'il faut aller à ça, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais en même temps, peut-être qu'il faut se dire on va y aller quand même. Voilà. Et que je ne sais pas du tout ce que deviendront Leïla et Benjamin. Mais ce que je dis, c'est à cette minute-là, à ce moment-là, je crois qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire que dans une heure, leurs hésitations ne seront pas revenues, leurs trouilles ne seront pas revenues. Mais à ce moment-là, essayez d'y croire, ils ont raison. Ils ont raison. Et j'en suis convaincu, et en ce sens, c'est de l'ordre du « je crois », donc de la profession de foi, au sens à la fois humain et quasi religieux du terme. C'est un « je crois » parce que je n'en ai aucune preuve. C'est un pari. Et c'est peut-être désespérant, j'en sais rien. Désespéré, mais j'espère, espérons.
Difficile. Et oui, qui peut dire ce qu'ils vont devenir?
On ne sait pas.
Voilà, on est dans l'inconnu, mais il y a la lumière qui perce. Est-ce qu'on peut lire ce moment, ce souvenir de famille? Ce petit passage-là, ce grand passage. En fait, quand dans la famille de Pierre et Benjamin, leur père avait l'habitude de les filmer gamins. Et il y a ce... Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Te paraît... Oui. Parce que c'est un style très différent. J'avais envie qu'on l'entende aussi.
Donc, dans les lignes d'avant, Laurent, le père de Pierre et Benjamin, les a filmés en train de jouer sur la plage. Une plage qui n'est pas celle où se retrouvent Benjamin et Leïla, parce que c'est une plage de Bretagne. L'image d'après, sur le film de l'été 2000, il y a deux autres gamins qui jouent sur le sable avec les deux frères, au football. Un garçon et une fillette. Le garçon, un jeune arabe brun de peau, a environ le même âge que Pierre, la même grâce de l'enfance finissante. Élégance, vivacité des gestes. Même insouciance, sans que le corps s'encombre encore. Des cheveux noirs et frisés. Il joue au ballon avec la petite sœur du jeune arabe, la cadette, la Benjamine, comme on dit. Elle porte un maillot rose, un peu trop grand pour elle. Ses cheveux longs frisés sont emmêlés, ensauvagés de sel et de sable. Son frère Ri la fait volter devant la caméra de Laurent, faire l'avion. Ils posent tous les quatre, bras dessous, devant l'objectif, hilar, s'adressent au caméraman tous en même temps, à bleur. On ne sait pas ce qu'ils disent. Les garçons s'égayent ensuite, prennent le ballon, le déposent sur un point qu'ils ont tracé du talon sur le sable, se font des passes. Quand ils tirent vers la fillette, elle ne parvient jamais, du haut de ses 6 ans, à arrêter le ballon. Elle court après, loin, sur la plage immense de la marée basse, l'attrape dans les mains, le rapporte à son frère. Au mouvement des lèvres sur le film, on devine que le garçon lui dit gentiment de ne pas prendre le ballon dans les mains. Elle n'a pas le droit, c'est du foot. Il recommence patiemment, shoot moins fort. Elle rate de nouveau, échoue, court, revient, le ballon dans ses mains. Pierre aussi rit, avec l'autre. Ils ont l'air fiers, heureux, cet air de défi des gamins de 9 ans qui vont prendre le monde à l'abordage. Les images sont presque brûlées de soleil. Elles tressautent dans le souvenir des fils et du père, parce que le souvenir se confond avec les images qui trémulent légèrement sur un projecteur Super 8 un soir d'automne. Ce ne sont pas ces souvenirs tremblants qui comptent, sauf pour les morts. Ce qui compte pour les vivants, c'est ce qu'essayent de faire Benjamin et Leïla, je crois, et Marie. Voilà, c'est la fin du roman.
Merci beaucoup, Vincent, déjà, pour tes réponses généreuses, toujours.
Toujours trop bavard.
Impliqué. C'est vraiment un roman que je vous invite. Moi, je l'ai lu 3 fois et j'ai eu très souvent envie de le lire à voix haute parce qu'il y a vraiment un style qui sonne. Il y a quelque chose de très particulier avec ce livre. On est dans une émotion, dans une tension permanente et tout ça est rendu par une écriture qui suit les personnages au plus près.
Merci.
Merci encore pour tout. Merci.